RCF.
Antoine d'Estambert, vous avez dit précédemment qu'on peut entrer à l'université, disons au Moyen-Âge, dès l'âge de 14-15 ans. Ça paraît très jeune aujourd'hui pour nous. Qui sont ces jeunes gens qui s'orientent vers ces études universitaires ?
Alors c'est une bonne question et malheureusement pour l'historien médiéviste, c'est sans doute une des questions auxquelles il est le plus difficile de répondre.
Pourquoi ?
Parce que la documentation que nous avons sur les parcours étudiants, en particulier pour l'Université de Paris, sont relativement rares. Paris n'a en effet jamais tenu de registre de matricule qui permettait d'enregistrer les étudiants au moment où ils se présentaient.
Ça se faisait ailleurs ?
Oui, ça se faisait ailleurs, essentiellement les universités allemandes durant la seconde partie de notre période ont conservé des registres complets de matricule qui permettaient donc de savoir très précisément à quel moment étaient arrivés ces étudiants et en général ils précisaient aussi leur diocèse d'origine, etc. C'est beaucoup plus difficile pour l'Université de Paris parce que la documentation est moins systématique. Alors on arrive à retrouver un certain nombre de choses, mais de fait, il est difficile de savoir précisément l'origine sociale de ces étudiants, même si on a des indices par ailleurs.
Quels sont les indices quand même qui peuvent nous aider à dresser un peu un profil de
Alors,
ces gens ?
Les indices, ils sont d'abord à la présence ou non d'étudiants issus de la noblesse. Parce que là, c'est un critère qui est remarqué. Alors, il est peu remarqué à Paris, parce qu'on ne tient pas compte de la qualité de noblesse à Paris. Mais dans d'autres universités, les universités méridionales, et toutes les universités en particulier qui sont dominées par le droit, il y a une forte présence nobiliaire. Il s'agit en général de cadets qui viennent faire des études et espèrent construire une forme de promotion sociale. Quand il s'agit d'étudiants qui sont issus de milieux beaucoup plus modestes, là, c'est beaucoup plus difficile. On sait qu'ils sont issus de milieux modestes parce que à l'université, on payait des droits d'examen, qu'on appelait à ce moment-là une bourse, et ces droits d'examen étaient soumis aux revenus que l'on possédait au moment où on s'inscrivait. Et donc, on a des registres qui permettent de mentionner que ces étudiants sont déclarés pauvres, donc sans revenus, et à partir de ce moment-là, ils étaient dispensés de droits d'examen.
Donc, on pouvait prétendre s'engager dans ces études tout en étant pauvre ?
Oui. Théoriquement, c'était possible, puisque depuis le concile de Latran III de 1179, la papauté avait établi que l'enseignement devait être gratuit. Donc on ne se fait pas payer quand on est maître normalement pour enseigner. C'est essentiellement la nécessité de subvenir à ses besoins matériels qui étaient compliqués pour les étudiants.
Ces étudiants donc sont d'abord exclusivement des garçons ? Il n'y a pas de femmes ou de filles.
C'est entièrement masculin. Tout à fait. C'est une institution qui est entièrement masculine.
Où est-ce qu'ils logent, tous ces jeunes gens ?
Ils logent dans des endroits qui peuvent être tout à fait différents. Parfois, ils logent chez le maître. C'est le terme que l'on retrouve dans la documentation parisienne, qu'on appelle des pédagogies, des maîtres qui ont des maisons à Paris, louent une chambre à leurs propres étudiants. On retrouve la même chose d'ailleurs à Oxford, c'est une habitude. Et puis, ils louent aussi des chambres aux bourgeois parisiens à des conditions qui sont normalement avantageuses. Depuis les statuts de Robert de Courson de 1215, statuts qui ont été donnés par le cardinal Robert de Courson à l'Université de Paris, eh bien, il y a l'obligation de ce qu'on appelle une taxation des loyers pour les étudiants, c'est-à-dire d'appliquer des loyers qui sont modérés. Et si cette taxation des loyers n'est pas respectée, la papauté donne le droit aux étudiants de faire grève. Donc, il y a la volonté de contrôler le marché du logement pour les étudiants à Paris.
Et ils ne s'en sont pas privés ?
Et ils ne s'en sont pas privés. Alors, pas toujours pour des problèmes de loyer, mais en tout cas...
Il y avait déjà des grèves.
Oui, tout à fait.
D'étudiants.
C'est une invention médiévale, universitaire et de la papauté, la grève, en 1231.
Ils sont reconnaissables ?
Oui, alors ils sont reconnaissables parce qu'ils sont d'abord des clercs, donc ils portent la tonsure. Alors c'est tout à fait essentiel parce que nous sommes dans une société où l'apparence physique permet de savoir à qui l'on a affaire quand on est dans la rue. Et quand on est un sergent du prévôt de Paris incarnant la justice laïque, quand on voit un jeune homme tonsuré, on sait qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Donc c'est important.
Parce qu'il relève encore une fois de la justice ecclésiale.
Il relève de la justice ecclésiastique, absolument. Et puis il y a des prescriptions vestimentaires dans les statuts universitaires qui ne sont pas différents de ce que l'on trouve dans les prescriptions de nature strictement ecclésiastique. monastique. Hein, il porte une robe longue qui doit couvrir les chevilles, de préférence avec des couleurs relativement sombres. L'usage de la fourrure est limité et réservé à la hiérarchie hein, de l'université. Donc oui, ils sont reconnaissables de cette façon-là.
Revenons à Sorbonne, Antoine d'Estemberg, on l'a évoqué déjà, le fondateur de la Sorbonne, qui est au départ un collège. Qu'est-ce
oui.
que ça veut dire ?
Alors, c'est un collège. Un collège, c'est une maison. À l'origine, le terme qui est employé le plus souvent, c'est le terme latin de domus. C'est une maison qui a pour vocation d'accueillir des étudiants qui viennent faire des études à l'Université de Paris. Ce n'est donc pas, au moment de sa création en tout cas, un lieu où l'on suit un enseignement, mais uniquement un lieu destiné à pourvoir aux besoins de logement, de se nourrir et aussi de trouver des conditions d'études favorables.
Une sorte de résidence universitaire ?
C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est une forme de résidence universitaire. Alors le système des collèges est un système initié dès l'apparition de l'université, on a les tout premiers collèges dès la fin du XIIe siècle, le collège des 18 notamment, hein, en 180, qui était tout simplement 18 places réservées à l'Hôtel Dieu de Paris pour des étudiants venant faire des études à Paris. Quelques collèges donc sont fondés dès le début du XIIIe siècle, mais le tournant de ce mouvement de la fondation des collèges, c'est bien en 1257, la fondation du collège de Sorbonne par Robert de Sorbonne, destiné à accueillir une trentaine d'étudiants qui ont fait des études déjà à la faculté des arts et qui se destinent à la théologie. Et donc on leur offre un cadre de vie pour travailler tranquillement. Ils ont parfois également une bourse, donc un petit pécule pour pouvoir vivre. Et puis, surtout, ce qui va faire le prestige de la Sorbonne, c'est un lieu où il y a des livres, une bibliothèque. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental et qui va jouer pour la centralité de ce collège dans l'ensemble de l'Université de Paris et de la faculté de théologie.
Ça, c'est un modèle qui va se généraliser ?
C'est un modèle qui tend à se généraliser. Le collège de Robert de Sorbonne étant véritablement quelque chose qui initie un mouvement. Et puis à partir début du XIVe siècle, les collèges se multiplient. Ils sont l'initiative tantôt de grands prélats, d'évêques notamment, qui prennent le soin de créer une maison. Donc ils achètent hein, tout simplement une maison dans Paris pour permettre la plupart du temps aux étudiants qu'ils font venir du diocèse qu'ils administrent pour leur permettre de venir faire des études à Paris. Et puis à côté donc de ces fondations qui sont des fondations essentiellement ecclésiastiques, les grands laïcs, par souci charitable de faire une fondation pieuse, donnent aussi, en général, dans leur testament, des maisons, des lieux pour permettre d'accueillir des étudiants. C'est le cas d'un des deux autres grands collèges de Paris, qui est le collège de Navarre, fondé par Jeanne de Navarre, la femme de Philippe le Bel, dans son testament en 1304-1305. Donc là, on a aussi un mouvement qui est initié, et grands prélats comme princes ou femmes issues de milieux princiers vont donner des sommes tout à fait considérables pour permettre d'accueillir une communauté d'étudiants dans un collège, avec en contrepartie cette vocation essentielle de prier pour le salut du fondateur. Ça, c'est essentiel dans l'idée du collège, c'est que c'est une communauté de mémoire aussi, parce qu'il faut derrière faire œuvre pieuse et œuvrer pour son salut.
Donc des jeunes gens de sexe masculin qui viennent d'un peu partout en Europe. Là, on parle de Paris, mais c'est vrai, on imagine bien de toutes les autres universités.
Oui, tout et ça, Paris accueille aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de partout en Europe.
Ouais. Oui. Cette jeunesse dans les rues de Paris, ça peut, ou des autres villes, pour ne pas se focaliser uniquement sur Paris, ça crée de l'agitation. La cohabitation avec le reste de la population se fait en bonne entente ou c'est parfois compliqué ?
Alors c'est très variable et effectivement il y a de l'agitation, c'est une population notamment pour la population la plus jeune qui est turbulente, ce qui inquiète beaucoup les institutions universitaires qui répètent régulièrement dans les statuts universitaires que on ne doit pas faire des sorties de nuit, il faut éviter de fréquenter les tavernes et pourtant les tavernes sont un lieu de sociabilité absolument essentiel et même intégré au mode de vie universitaire. Après chaque examen, après les assemblées, on se retrouve pour une potatio à la taverne. Donc la taverne est tout à fait essentielle, mais la taverne charrie toute une forme de vie qui n'est plus tout à fait la vie cléricale. Donc oui, il y a une cohabitation qui est parfois très difficile, et on a, que ce soit à Oxford, à Bologne ou à Paris, des épisodes très violents de confrontation entre la population bourgeoise, soutenue par le pouvoir laïque, qui en procède parfois, et puis ses étudiants. L'apparition de l'Université de Paris est ponctué par ces échauffourées. La première véritablement mention de la communauté des maîtres et des étudiants à Paris, c'est en 1200, et c'est une charte du roi Philippe Auguste qui vient essayer de réparer une action violente de son prévôt qui a tué un étudiant et qui en a molesté un certain nombre avec les sergents, et donc réparation est faite. En 1231, la grande charte qu'on appelle souvent la grande charte de l'Université de Paris, qui vient poser les jalons normatifs de celle-ci, est promulguée par le pape à l'issue d'un très long conflit qui commence 2 ans auparavant et qui a comme origine une querelle de taverne du côté du quartier Saint-Marcel, qui est donc au sud du quartier universitaire. Donc il y a des violences nombreuses liées à cette fréquentation de population, et puis d'une jalousie aussi d'une certaine façon de la population urbaine qui voit cette catégorie de jeunes clercs échapper au contrôle de la justice urbaine parce qu'ils sont des clercs et on ne peut rien faire contre cela. Donc ceci nourrit une forme de tension que l'on retrouve régulièrement.
On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci Antoine d'Estambelle.